VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 14h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. On commence par la présidentielle aux États-Unis, la présidentielle 2016. Après le premier débat entre la candidate démocrate à la présidence Hillary Clinton et son rival républicain Donald Trump, c'est au tour du candidat démocrate à la vice-présidente Tim Kaine et de son adversaire républicain Mike Pence de croiser le fer ce soir à Farmville en Virginie. Pour en parler, Timothée Donangmaya a joint le professeur Jim Caesar de l'Université de Virginie à Charlottesville, qui présente tout d'abord le démocrate Tim Kaine.
Oui, il est ex-gouverneur et aussi, bien sûr, le sénateur de l'État. Très populaire en Virginie, assez modéré en tant que démocrate. Il va aider, c'est sûr, Hillary Clinton dans l'État de Virginie, qui est un peu un swing state.
Un État clé.
Oui. C'est clé parce que c'est un des États importants. Et Hillary Clinton fait campagne moins en Virginie à cause de Kaine, qui fait la plus grande partie de la campagne en Virginie.
Et qu'en est-il du gouverneur Mike Pence d'Indiana, le républicain?
L'antithèse aux antipodes de Trump en ce qui concerne leur personnalité. Il parle très lent, il n'a pas de charisme. Donc c'est un peu, comme je disais, l'antithèse de Trump. Très populaire au sein du parti républicain, surtout avec les conservateurs. Et assez un grand succès en tant que gouverneur en Indiana.
D'habitude, le rôle du colistier, du candidat à la vice-présidence, c'est de passer à l'attaque contre le camp adverse. Est-ce que ce sera le cas dans ce débat Pence-Kaine?
Dans cette campagne, Trump, surtout, il aime attaquer Clinton. Il n'a pas besoin d'un vice-président qui le fait. Et c'est un peu la même chose avec Mme Clinton, qui, pendant le dernier débat, elle a attaqué surtout pendant ce débat-là. Donc, je crois que ce sera un peu différent. Ces gens-là n'ont pas la personnalité d'un chien qui attaque, ni l'un ni l'autre.
Oui, alors à quoi faut-il s'attendre dans ce débat?
Je ne sais pas exactement, mais probablement ça va être une discussion plus présidentielle, si vous voulez, qui va parler des questions de politique, la politique étrangère. J'imagine que ce serait un peu le débat qui en s'attend pour un débat présidentiel. Bien sûr, il y aura des occasions de l'attaquer l'autre, mais c'est surtout un temps tout à fait différent.
Le professeur Jim Caesar de l'Université de Virginie à Charlottesville. Afrique maintenant, Washington a décidé de ne plus délivrer de visa aux responsables du gouvernement gambien et leurs proches. À l'origine, litige sur l'expulsion des ressortissants gambiens en situation irrégulière ici aux États-Unis. Eric Manirakiza.
La mesure est en vigueur depuis lundi. L'ambassade américaine à Banjul a cessé de délivrer des visas aux responsables du gouvernement gambien ainsi qu'à leurs familles jusqu'à nouvel ordre. Selon un communiqué de la représentation diplomatique américaine, c'est en raison du refus du gouvernement gambien de fournir des passeports ou autres documents de voyage à des citoyens gambiens en instance d'expulsion des États-Unis. Ces représailles américaines n'affectent pas les simples citoyens, mais la mesure pourra faire l'objet d'exceptions pour des voyages liés aux obligations internationales des États-Unis ou à la promotion d'intérêts américains, humanitaires ou autres, souligne l'ambassade américaine en Gambie.
Au Mali, deux casques bleus de l'ONU tués et plusieurs autres blessés grièvement lundi dans une attaque combinée contre leur camp à Aguelhok, dans le nord-est du pays, près de la frontière algérienne. C'est ce qu'annonce le tout dernier bilan publié ce mardi par la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a condamné hier soir cette attaque, faisant état d'un mort. Un casque bleu tchadien dans un premier temps, mais un deuxième casque bleu a succombé dans la soirée à ses blessures, précise la MINUSMA dans son nouveau communiqué. Dans son tout dernier rapport trimestriel sur le Mali au Conseil de sécurité rendu public ce mardi, Ban Ki-moon souligne que les attaques contre les forces françaises et maliennes et la MINUSMA ont augmenté et deviennent de plus en plus sophistiquées et complexes. Plus de détails sur les hostilités d'hier à Aguelhok avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Au moment où tous les regards sont tournés vers les combats entre Imgad et Ifugas aux alentours de Kidal, C'est la période choisie par les djihadistes pour mener des opérations, comme ce fut le cas ce lundi 3 octobre 2016 au niveau du camp de l'aménagement à Aguelhok. Les assaillants ont profité d'une aire de flottement, 14 heures, pour faire cette attaque à Aguelhok dans la région de Kidal. Et c'est le camp de l'aménagement qui a été la cible de plusieurs tirs de mortier. Une force d'intervention rapide de l'aménagement a immédiatement été déployée après les tirs pour en identifier l'origine. Deux des véhicules d'intervention ont heurté une mine. L'explosion a entraîné la mort d'un casque bleu. Plusieurs autres soldats de la paix ont été blessés, dont 5 grièvement. Ils ont pu être évacués dans un premier temps vers la ville de Kidal. L'aménagement condamne ces attaques perpétrées contre ses forces et affirme que ces attaques n'affaibliront pas la détermination des Nations Unies à soutenir le gouvernement malien, les parties signataires de l'accord de la paix et le peuple malien dans leurs efforts pour parvenir à une stabilité durable. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Côte d'Ivoire, le projet de budget 2017 sera marqué par une hausse des dépenses liées à la sécurité suite à l'attaque de Grand Bassam en mars qui a fait 19 morts. C'est ce qu'a déclaré le ministre ivoirien du budget Abdourahmane Cissé. Près de 100 milliards de francs CFA, soit environ 152 millions d'euros, seront destinés au renforcement de la sécurité, d'où une hausse du déficit budgétaire qui devrait grimper à 4%. RDC maintenant, le gouvernement congolais a accusé aujourd'hui le chef de la diplomatie française Jean-Marc Ayrault d'encourager les extrémistes. Suite à cette déclaration demandant au président congolais Joseph Kabila de respecter la constitution de la République démocratique du Congo et de ne pas se représenter à la présidentielle. Le mandat de M. Kabila au pouvoir depuis 2001 arrive à son terme le 20 décembre. La constitution lui interdit de se représenter, mais le chef de l'État ne donne aucun signe de vouloir quitter son poste alors que le scrutin présidentiel apparaît désormais impossible à organiser dans les délais requis. Au Tchad, la deuxième réunion tripartite Tchad-Soudan-HCR pour le retour volontaire et librement consenti des réfugiés soudanais installés dans l'est du pays a eu lieu la semaine dernière à Abéché. Le point avec notre correspondant N'Djamena André Kodmajingar.
Dans certains camps, les réfugiés qualifient les membres de la délégation soudanaise des victimes comme eux et donc ils n'ont pas qualité à entreprendre cette démarche. Où sont nos vrais bourreaux du Nord qui ont tué nos parents, brûlé nos villages et pillé nos biens, s'interroge-t-il. Nous exigeons la démission et le jugement du président El-Béchir ainsi que ses complices et l'intervention de la force onusienne dans le déminage de certains villages du Darfour, ajoute-t-il. Le délégué régional de la Commission nationale d'accueil des réinsertions des réfugiés et des rapatriés côté tchadien, Ali Abdoulaye Idriss, trouve légitime l'inquiétude exprimée par les réfugiés.
Les réfugiés, ils parlent le même langage. Ils ont demandé à la délégation de repartir, réinstaurer la paix d'abord au Soudan. Donc je pense que leurs revendications étaient légitimes de ma part. Notre institution est tenue de respecter les engagements vis-à-vis de la communauté internationale parce que le Tchad a ratifié la convention de 1951 relative aux statuts de réfugiés. On ne peut pas imposer les réfugiés dans les temps qu'il n'y a pas la paix dans leur pays d'origine.
Forsa Moudjib Al-Rahman Mohamed, chef de mission soudanaise, dit avoir pris acte des préoccupations des réfugiés qui seront transmises à qui de droit. André Kodmajingar de retour de l'Est, N'Djamena pour VOA Afrique.
Actualité hors d'Afrique, guerre en Syrie. Le ministère russe des Affaires étrangères a regretté hier la décision des États-Unis de suspendre les pourparlers sur un cessez-le-feu dans le conflit, accusant Washington de tenter de faire porter sur Moscou la responsabilité d'un échec. Le point avec Nani Talani.
La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, affirme regretter la décision de Washington de couper court au travail des groupes d'experts à Genève, de retirer leurs experts et de limiter des contacts au seul domaine de la prévention des conflits. Elle accuse les États-Unis de n'avoir pas tout simplement rempli la condition clé de l'accord, à savoir l'amélioration des conditions humanitaires aux environs d'Alep, la deuxième ville syrienne qui subit des raids aériens d'une intensité sans précédent depuis plusieurs mois. Selon la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, tout se résumait en fait à une question simple. Qui est le front al-Nusra, la branche syrienne d'Al-Qaïda? Qui est derrière lui? Et pourquoi Washington ne peut pas respecter sa promesse de séparer les terroristes de la soi-disant opposition modérée? Pour sa part, l'émissaire spécial de l'ONU pour la Syrie s'est dit profondément déçu par la fin des pourparlers américano-russes sur la Syrie. Staffan de Mistura a assuré que l'ONU poursuivra ses efforts en faveur d'une solution politique au conflit syrien.
Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.